Chapitre 46. Le grand bal. Zizo hésitait entre grimper 4 à 4 les marches de marbre brun de l'escalier des ambassadeurs pour arriver plus vite encore ou s'enfuir à toutes jambes. Ses yeux observaient les bouquets de fleurs et les bougies posées de chaque côté du tapis rouge, du rez-de-chaussée au premier étage, formant un chemin éclairé et parfumé jusqu'à la galerie des glaces. Impossible de s'égarer. Une fois qu'il aurait atteint le haut des marches, il ne pourrait plus reculer. Il laissa ses jambes molles le porter. Il se sentait ridicule dans son pantalon slim noir, sa chemise blanche à fins lacets de cuir, son gilet rouge, de la même couleur que le foulard qui retenait ses cheveux, coiffé par 3 Lolly Girls fans de Lolly Mode surexcités. Les semelles de ses bottines, qui lui arrivaient presque aux genoux, étaient si glissantes que s'il ne s'accrochait pas fermement à la rambarde de l'escalier des ambassadeurs, il dévalerait immédiatement sur les fesses toutes les marches qu'il venait de grimper. Zizo se cramponnait, à mi-escalier, et pourtant faillit tout de même s'étaler de tout son long. Alix venait d'apparaître en haut des marches, devant la porte de la galerie des glaces. « Une reine !» pensa Zizo, le souffle coupé. « Mais pas n'importe quelle reine. Une reine de conte de fées. Une reine plus belle que n'importe quelle princesse née un jour dans un château. Une reine, tout droit sortie d'un tableau. » Le garçon observait son amoureuse le cœur battant. Les longs cheveux d'Alix, habituellement maintenus en désordre par une couronne posée de travers sur sa tête, étaient peignés, lissés, brillants de 1000 éclats, et tombaient sur ses épaules dénudées en une cascade scintillante. Un collier de fines perles, transparente comme de l'eau, se balançait sur l'arrondi de sa gorge. Le regard hypnotisé de Zizo descendit sur la longue robe de mousseline blanche ornée de feuilles dorées, avant de remonter jusqu'à ses paupières ombrées de paillettes argentées. La beauté d'Alix en était même effrayante. Zizo se sentit soudain ridicule. Lui, le petit crapaud, de prétendre entrer dans la galerie des glaces au bras d'une telle apparition. Une apparition qui posait sa main gauche sur sa bouche rose tendre et lui tendait la droite. Zizo, waouh, qu'est-ce que tu es beau! Se pouvait-il, se demanda le garçon, que par le plus grand des miracles, Alix ressente pour lui, ainsi déguisé en chevalier pirate, la même émotion que celle qu'il ressentait pour elle? Il attrapa sa main avant de tomber à la renverse, dérapa sur le parquet, mais parvint in extremis à rétablir son équilibre. « Viens, » fit Alix. « Je tenais à ce que nous soyons les premiers. » Pour un soir, elle accepterait de profiter du privilège d'être reine. Ils entrèrent, main dans la main, dans la galerie encore déserte. Pour la seconde fois en moins d'une minute, Zizo en eut le souffle coupé. Les singes n'avaient pas fait les choses à moitié. Des centaines, peut-être des milliers de bougies étaient accrochées au lustre de cristal et faisaient briller la galerie comme une longue et large caverne au trésor. Chaque détail de la pièce étincelait d'or. Les statues, les moulures des plafonds, les encadrements sculptés des hautes fenêtres et des miroirs géants. Partout, des fleurs rivalisaient de couleurs avec les vitraux des lanternes et les guirlandes de cœurs en origami. L'impression d'ensemble paraissait irréelle, comme si l'un des plus beaux tableaux des plus grands maîtres s'était ouvert et qu'il avait le droit pour une nuit de s'y promener. Zizo repéra même, au milieu d'une table où était posée une pyramide de verre, un grand bouquet de jonquilles, dont on aurait juré qu'elles avaient été cueillies il y a moins de 2 heures. Mais qui aurait pu perdre ainsi son temps en forêt plutôt que de s'habiller et se coiffer?
« T'es déguisé en reine ou quoi ?»
Zizo et Alix se retournèrent. Sabi se tenait devant eux, vêtue d'une tunique égyptienne qui lui arrivait à mi-cuisse. Elle était parvenue à coincer ses longs cheveux blonds dans une perruque noire corbeau à franges et carillonnait comme au birthday chaque fois qu'elle agitait les bijoux égyptiens qui pendaient à son cou, ses poignets et ses oreilles.
« Mais t'es juste sublime, ma chérie !» s'exclama Sabi. « Tu vas finir impératrice !» Et t'es pas mal non plus, petit crapaud. Faut reconnaître, ma copine a bon goût. Même si mon homme à moi va toutes vous rendre jalouse en crever.
Hakan apparut derrière Sabi, lui aussi métamorphosé. Son pantalon de cuir et sa chemise de soie pourpre mettaient en valeur son impressionnante musculature, compensée par la délicatesse du camélia blanc à cœur rouge à sa boutonnière et de l'élégante pierre brillante portée à son oreille. Alix accorda à son ami un demi-sourire, avant d'enchaîner d'un ton inquiet. « Vous avez retrouvé Pou ?»«
Non, aucune trace, » répondit Hakan. « On a abandonné les recherches quand la nuit est tombée. »«
Et Puggy ?»« Aucune trace non plus, » affirma Sabi. « Mais le parc est géantissime. Il n'y a pas de raison de s'affoler. Bébé chien a sûrement profité du premier jour de soleil pour aller se dégourdir les papattes avec bébé Préma. On les retrouvera endormis tous les deux dans un coin demain matin. »
Et Luponero, poursuivit Alix.
Sabi, à quelques minutes de l'ouverture du grand bal, se voulut rassurante.
On a fouillé le bassin, presque tout le monde s'y est mis, avec des baux, pour explorer au plus profond. Si Luponero s'y était noyé, on l'aurait retrouvé. Ce garçon parle aux poissons. Il a une nageoire qui lui pousse dans le dos dès qu'il est sous l'eau. Je suis prête à mettre ta tête à couper, Majesté, qu'il s'est faufilé comme une anguille dans le premier tuyau. Alors, oublie tout, et que la fête commence!
Et la fête commença. Quatre musiciens, Mouk, Caméliane, Abou et Cladrix, équipés de deux violons, d'un alto et d'un violoncelle, jouèrent d'abord des valses pour accompagner les couples qui arrivaient les uns après les autres. Ils avaient entamé leur premier morceau pile au moment où Isalis, robe violette, gants fuchsia et fine voilette mauve accrochée à son chignon, entrait, accompagné de Soutim, haut de forme, nœud papillon et queue de pie. La ministre du temps passé eut un petit sourire satisfait en observant la somptueuse décoration, alors que Soutim, d'un geste du bras, indiqua au quatuor de jouer un peu moins vite et moins fort. La galerie des glaces s'emplissait. Peu de couples dansaient, mais la plupart s'étaient servi une pleine assiette de gâteaux apéritifs, de brochettes de fruits, de noix, de cacahuètes, de pistaches, préparées par Honora et son équipe de cuisiniers, et accompagnées de coupes de raisins fermentés ou de jus de pomme pétillant. Dès qu'un nouveau couple entrait, tous les regards se tournaient vers la porte de la galerie. Wayne et Cheyenne la franchirent avec un grand sourire. Wayne, un chapeau de cow-boy tout neuf en peau de serpent sur la tête, et Cheyenne, habillée d'une tunique à franges, décorée de plumes de perdrix blanches. Gulo-Gulo et Flabelle s'avancèrent et se dirigèrent directement vers le buffet. Osman et Leonarda se présentèrent tous les deux dans le même costume de marin, trop court pour les longues jambes du cartographe et trop large pour les frêles épaules de la peintre. Pépin et Fanfan prirent un verre, remplirent une assiette pour deux, avant de filer se réfugier dans le coin le moins éclairé de la galerie. Derrière eux, trois silhouettes, au lieu des deux habituelles, entrèrent. Novak était entouré d'Olympe et de Minerva. Hélios, le cavalier officiel de Minerva, purgeait sa peine de prison au Grand Trianon suite à son agression contre Luponero. Exceptionnellement, le conseil avait accordé au plus convoité des soldats de venir avec deux cavalières. Le quatuor continuait de jouer de lentes sonates qui ne donnaient à personne envie de danser. Peu importait, tout le monde n'était pas encore arrivé. Zizo avait vidé une deuxième coupe de jus de raisin fermenté, la tête lui tournait déjà un peu, et Sabi continuait de remplir son verre. Il entendit un frisson parcourir l'assistance et se tourna, comme tout le monde, vers l'entrée de la galerie. Des pas réguliers cognaient sur le parquet. L'instant d'après, Vanille et Jeanne d'Arc entrèrent, côte à côte, et avancèrent dans la galerie en une marche quasi militaire parfaitement chorégraphiée. Le ministre des Punitions portait un impeccable costume orné de boutons dorés, de fourragères et de galons à l'épaulette, alors que la ministre du jour et de la nuit, perchée sur des talons d'au moins 10 cm, un record de mémoire d'ado, avait enfilé une stricte et très chic robe grise de soirée, simplement colorée d'un collier de rubis aussi rouge que ses lèvres.
« Waouh !
La très grande classe !» murmura Sabi à l'oreille d'Alix et de Zizo. Il est vrai que la diversité des tenues choisies par les ados offrait un spectacle surprenant et bariolé, entre perruques, chapeaux, longues robes chez les singes ou jupes courtes chez les lolligirls, plumes dans les cheveux ou fleurs portées en diadème, bijoux et médailles, cuir rare et pierres précieuses, parfums de rose, de muscade, de jasmin, de poivre. Le quatuor avait enfin abandonné leur violon pour saisir trois guitares, un tambour, deux baguettes et une cymbale. Les musiciens avaient visiblement obtenu l'autorisation de Soutim, et Isalis préféra détourner les yeux. L'ambiance, même sous les bougies, devint d'un coup plus électrique. Cladrix fut le premier à se lancer dans un long solo.
« Du rock !» cria Sabi. « Enfin ! C'est un truc que même nos parents ne dansaient déjà plus avant le passage du nuage, mais ça nous dégourdira les jambes pour commencer !»
Elle tira un hakan tétanisé sur la piste de danse, entraînant dans son sillage une bonne dizaine de couples, dont Alix et Zizo. Tous improvisèrent, en duo ou en solo, des déhanchements sur le rythme endiablé. Cela permit à Liu et Lunella de pénétrer dans la galerie, accrochés l'un à l'autre sans se faire remarquer. Lunella embarqua elle aussi son cavalier sur la piste, sans même passer par le buffet. Le ministre des Inventions, guère plus à l'aise que les autres garçons à l'idée de se trémousser, fut rassuré en constatant qu'Akan et Zizo dansaient aussi mal que lui. Peu importait, Lunella, Alix et Sabi les faisaient virevolter en toupie.
« Allez les garçons !»
hurlaient les lolligirls.
« Décoincez-vous !»
Jeanne d'Arc restait statufié au milieu de la piste, raide comme un beau. Wayne se secouait comme un chien couvert de puces. Novak faisait tourner ses deux cavalières avec autant de délicatesse que s'il s'agissait d'un entraînement de judo. Zizo prenait de l'assurance, mais dans un mouvement un peu trop audacieux, finit par lâcher la main moite d'Alix et glissa en dérapage non contrôlé vers la porte de la galerie.
« Oh ! Désolé !»
Il venait d'atterrir au pied d'un nouveau couple qui entrait, habillé de somptueux costumes colorés évoquant des terres lointaines non encore explorées. Zizo leva les yeux et se força à ne pas les baisser aussitôt. Agnel et Solario avancèrent jusqu'à lui, main dans la main, souriant et rayonnant. Agnel aida Zizo à se relever sans paraître le moins du monde gêné.
Merci. Zizo ne pouvait s'empêcher de repenser à toutes ces années où il avait dormi à côté d'Agnel, son meilleur ami, son frère, son complice de toujours. Depuis quand avait-il compris qu'il aimait les garçons? Et que Zizo, lui, non. Il chassa cette idée bizarre de sa tête, Agnel avait-il été amoureux de lui, pour ne laisser qu'un seul sentiment envahir ses pensées. Il n'avait jamais vu son ami aussi heureux. Les musiciens avaient encore changé d'instrument, cette fois visiblement sans l'autorisation de Soutim ni d'Isalis. Abou et Mouk avaient coincé entre leurs cuisses des tam-tams africains et battaient la mesure de plus en plus vite, alors que Camélian poussait en rythme des cris rappelant vaguement les expressions monosyllabiques de Pou.
Ouh ha ha, ouh oh yeah, oh yeah, ouh ouh ouh.
Cladrix les accompagnait avec un étrange instrument à cordes, bricolé avec quatre cordes à linge enroulées autour de deux baux. Les couples les encourageaient en tapant des mains et des pieds. Plus question de savoir danser ou pas, cette fois, tout le monde s'exprimait avec des gesticulations d'hommes et de femmes préhistoriques.
« Enfin de la vraie musique !»
commenta Sabi.
« Et c'est pas fini !»
Zizo se laissait aller lui aussi au mouvement saccadé orchestré par les batteurs. Il avait perdu Alix de vue dans la foule déchaînée. Tout le monde devait être arrivé maintenant, pensa-t-il. À part Augénor. Le grand cerf viendrait-il? Il devait être encore plus difficile d'être cloué dans un fauteuil roulant le jour où tout le monde dansait. Il ne manquait donc qu'Augénor à la fête et,
Chrysante ? Il ne l'avait croisée nulle part dans la galerie des glaces. Dès que Zizo s'arrêtait de danser, quelqu'un ou quelqu'une, à gauche ou à droite, le bousculait. Il dut continuer de s'agiter au rythme de la foule, mais une pointe de mélancolie venait de l'envahir, comme si son esprit s'était échappé de son enveloppe terrestre, celle qui ondulait avec les autres, pour s'élever au-dessus de la foule et la regarder avec détachement. Chrysante devait être seule, quelque part, seulement entourée de Lali. Depuis leur arrivée au nouveau château, Zizo ne l'avait quasiment pas revue. Elle restait presque toutes les journées isolée dans le hameau de la reine, et les rares fois où ils se croisaient, elle détournait les yeux.
« Tu avais promis ?»
C'étaient les derniers mots que Chrysante lui avait adressés dans le dortoir des garçons il y a 3 mois déjà.
« Tu avais promis de venir avec moi au bal ?»
Zizo essaya de chasser ce sentiment de culpabilité qui lui gâchait la fête. Chrysante aurait pu venir avec n'importe qui d'autre. Il y avait des dizaines de garçons, libres, sans cavalière, comme Valère, par exemple. L'historien était assis sur une chaise, sous la statue dorée d'une déesse, Diane ou Vénus, et vidait verre de raisin sur verre de raisin. Sabi quitta un instant la piste pour s'approcher de l'historien, une bouteille ambrée d'orge brûlant à la main. Il la suivit, cherchant Alix des yeux dans la marée humaine ondulante, sans la trouver. Entre les boum-boum-boum des tam-tams et les ou-ou-yé-yé des chanteurs, il entendit Sabi essayer de consoler le savant célibataire.
« Tiens bon, mon petit génie !»
disait Sabi en lui versant un plein verre de liquide doré.
« Boum, 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 la moitié des couples qui dansent ensemble ce soir ne pourront plus se supporter dans une semaine. Ouh, yeah, ne fais pas ta tête de fraise des bois. Boum, je vais te prédire l'avenir. Toutes les filles, après avoir essayé 2 ou 3 garçons avec un look rebelle et des biscottos, et les avoir jetés à la poubelle faute de leur avoir trouvé une cervelle, toutes les filles, je te dis bien, toutes les filles, tomberont amoureuses de toi. »
Boum. Valère s'en fichait. C'était ce soir qu'il voulait une cavalière, et il vida tristement son verre. Sabi repartit danser avec Akan en lui laissant la bouteille. Les tambours accéléraient encore leur rythme. Au centre de la galerie, plusieurs ados avaient commencé une farandole, et bientôt, tous se retrouvèrent à former une longue chenille à laquelle aucun garçon ni aucune fille, même seul, même fatigué, ne pouvait échapper. Lunella menait le mille-pattes. Elle s'arrêta d'un coup. Un nouveau couple se tenait devant la porte. La chenille se tortilla d'abord dans tous les sens, comme si elle s'était retrouvée nez à nez avec le bec d'une poule voulant la dévorer. Puis, doucement, cessa tout mouvement, évita tout bruit pour se contenter de regarder passer le couple retardataire. Plus aucun son ne résonnait dans la galerie des glaces, à l'exception de celui des joueurs de tam-tam et du couinement régulier, presque en rythme, des roues du fauteuil d'Eugénor sur le parquet. Mordelia le poussait, une main sur le fauteuil, l'autre sur l'épaule du conseiller. Eugénor était vêtu d'un pantalon et d'une chemise blanche immaculée, alors que Mordelia portait sa traditionnelle robe noire déchirée, aussi sombre que sa bouche et ses yeux maquillés. Petit à petit, dès qu'ils furent passés, des murmures dans leur dos grignotèrent le silence. Eugénor ne prononça aucun mot et se contenta de se diriger, avec sa sorcière de cavalière, vers le buffet, non sans lancer un regard appuyé à Alix, Akan, Agnel et Solario. Un regard qui signifiait quelque chose comme « N'est-ce pas vous qui vouliez la libérer et lui pardonner ?» La présence de Mordelia avait jeté un trouble, un froid qui s'était abattu sur les épaules de tous les ados. Même Mouk et Abou commençaient à abandonner leur tam-tam, faute de danseurs. Soutim eut alors la présence d'esprit de monter sur une table et, sous les yeux inamourés d'Isalis, se mit à chanter « Nous, les enfants du nuage, tous orphelins, sans souvenir. » La chanson était lente, chaude, mélancolique,
Les couples instinctivement se rapprochèrent et réinvestirent la piste. Deux par deux, chaque cavalier serré contre sa cavalière. Sabie, même si elle ne portait pas ce crâneur de soutime dans son cœur, devait reconnaître qu'il avait une sacrée belle voix et invita Hakan à partager le slow avec elle. « Puisque nous avons le même âge, serons gardiens du même avenir. »
« Tu m'accordes cette danse ?» demanda Alix, surgissant de la foule.
« Tout l'honneur est pour moi, Majesté !» répondit Zizo sans hésiter. « Marie-Lune veille sur notre bonheur. Elle guide nos pas, ouvre nos yeux. »
Il eut une dernière pensée pour Chrysante, sa petite sœur de cœur, la seule des ados à ne pas participer à la fête. Puis presque aussitôt, le parfum de rose d'Alix chassa cette ombre. Et Zizo s'abandonna dans les bras de la fille qu'il aimait depuis toujours et qu'il aimerait toute sa vie.
« Et si ce monde était trop vieux, nous en construirons un meilleur. »«
C'est bon, maestro? T'as fini ton show ?»
Soutim venait juste de chanter sa dernière note, interminable, comme s'il pouvait la tenir une minute sans respirer.
« Alors, maintenant !»
cria Sabi encore plus fort que Soutim ne venait de chanter.
« C'est enfin parti pour la fiesta !»
Aussitôt, le bruit d'un clou qu'on essaie de planter dans une plaque de métal, suivi du grincement d'une roue mal huilée et d'assiettes qu'on laverait avec des griffes de fer, traversa la galerie à en faire exploser toutes les glaces. Matifou et son groupe de New World avaient pris le pouvoir. La transe toucha tous les ados presque immédiatement et tous s'agitèrent frénétiquement. La New World, c'était ça leur musique, celle du nouveau monde, celle qu'aucun parent, même s'ils avaient été vivants, n'aurait jamais pu comprendre. Marteaux, sifflets, verres brisés, casseroles fracassées, crin-crin de moulins, tous les bruits y passaient à un rythme endiablé, déchaînant chaque fois davantage les ados en sueur.
« J'ai soif !»
fit Alix complètement décoiffée.
« J'y vais !»
proposa Zizo qui commençait à fatiguer. Il se fraya difficilement un chemin jusqu'au bar et prit le temps de regarder les 200 ados qui dansaient comme des robots, heureux, vivants, vibrant comme ils n'avaient jamais vibré. Une même tribu, s'agitant au même rythme sur la même musique, universelle, sans frontières. Malgré lui, il ne put s'empêcher de repenser aux théories de Valère, l'un des rares ados à ne pas se laisser entraîner par la transe. Si tous étaient capables de danser comme des moutons au même son, et que cette seule sensation leur suffisait, comme boire, manger et s'amuser, est-ce que Génor n'allait pas gagner? Bientôt, tous se ficheraient des débats au conseil, des ministres, des élections, des explorations, du nouveau monde à construire, des guerres à éviter, tous ne penseraient qu'à une chose, boire, manger, danser et s'amuser. La New World comme seul programme pour le nouveau monde. Il n'y avait qu'à les regarder, tous, le visage déformé de bonheur à ainsi se lâcher. Même lui n'avait qu'une envie, y retourner. Une petite main tapa sur son épaule.
« Tu peux me la garder, s'il te plaît ?»
Zizo n'eut pas le temps de réagir, de chercher à reconnaître la voix qui lui parlait dans le vacarme, de poser l'une des deux coupes de jus de pomme fermentée qu'il tenait. Il se retrouva avec Lali dans les bras. La seconde suivante, il vit la petite silhouette frêle de Chrysante, boudinée dans une affreuse robe de soirée ressemblant à un rideau de douche, s'éloigner au bras d'un garçon petit et trapu, au cou large comme celui d'un taureau. Le garçon la fit voltiger, au rythme de la New World, avec autant de facilité que si Chrysante avait elle-même été une poupée de paille. Il la rattrapa par la taille et elle explosa d'un rire encore plus aigu que les raclements de fourchettes sur des couvercles de poubelle orchestrés par Matifou. Son rire forcé n'avait rien de naturel, pas plus que les coups d'œil que Chrysante lançait à Zizo ou à sa poupée entre ses bras. Des coups d'œil que son cavalier au cou de taureau avait fini par remarquer, et lui aussi se retourna. Bill. Chrysante avait choisi King Bill comme cavalier.
La soirée s'éternisa. Il faisait désormais une telle chaleur dans la galerie des glaces qu'on avait ouvert les fenêtres, mais la fraîcheur de la nuit ne suffisait pas à combattre l'humidité qui recouvrait d'une épaisse pellicule de buée les verres et les miroirs et transformait la piste de danse en patinoire. Heure après heure, morceau interminable après morceau interminable, la New World inventait sa propre légende en ajoutant de nouveaux sons bricolés avec tous les objets trouvés dans la réserve du salon de l'abondance, avec une rythmique toujours aussi démentielle. Cladrix et Abou avaient rejoint Matifou. De plus en plus de danseurs exténués commençaient seuls ou en couple à abandonner la piste. Chrysante, dernière arrivée au bal, fut l'une des premières à le quitter, ordonnant à Bill d'aller récupérer Lali.
« Il est tard. » Elle est fatiguée, elle doit aller se coucher.
Bill obéit, écoutant les recommandations de Chrysante comme s'il ne doutait pas une seconde que sa poupée fût vraiment vivante. Mordelia et Eugénor, seuls ados à ne pas avoir testé les mouvements frénétiques de New World, avaient disparu, eux aussi. Vanille, de son côté, n'avait visiblement pas envie d'attendre la fin du concert. Infatigable sur ses hauts talons qui claquaient dans la galerie des glaces, la ministre commençait déjà à tout ranger. Gobelets ébréchés, cruches vides, serviettes déchirées. Jeanne d'Arc, galons, casquettes et fourragères un peu de travers, l'accompagnait, commandant à une demi-douzaine de soldats de passer le balai et de ne laisser aucun confetti traîner. Cette fois, comprenant que la fête était terminée, Matifou, Cladrix et Abou jouèrent la note finale de leur dernier morceau. Un bruit d'enclume qui serait tombé du ciel sur un trampoline en aluminium. La moiteur de la galerie était plus poisseuse que jamais. Zizo et Alix se penchèrent par l'une des fenêtres ouvertes donnant sur le parc, respirant à plein poumon l'air frais nocturne. Ils restèrent là longtemps, si proches, sereins, observant les ombres des amoureux éparpillés dans le parc. Comme toujours, pensa Zizo. Sa bille avait eu une idée de génie. Ce grand bal était une réussite totale. Quoi qu'en pense Valère, s'amuser et danser ne faisait pas d'eux des ados inconscients, fainéants et faciles à manipuler. Bien au contraire. Dès demain, après une courte nuit, chacun serait plus encore motivé pour les cours, les tours de corvée, les... Un cri jaillit dans la nuit. Zizo et Alix l'avaient immédiatement reconnu. Ce cri de terreur avait été poussé par Sabi. Zizo et Alix dévalèrent l'escalier des ambassadeurs aussi vite qu'ils le purent. Zizo envoya valser ses bottines vernies et courut pieds nus, indifférent au gravier de la cour d'honneur qui lui écorchait la plante des pieds comme autant d'éclats de verre. Sabi avait crié. Sabi était en danger. Le cri provenait de l'orangerie. Ce grand bâtiment qui ressemblait à une gigantesque serre où on faisait jadis pousser des oranges et des citrons et où Vanille projetait de planter tout un potager. Alix courait à ses côtés, le visage tout autant défiguré par la peur. Un tel cri de douleur ne ressemblait pas à Sabi. Qu'avait-il pu se passer? Ils atteignirent le coin de l'orangerie le plus proche du château. Seule la lune l'éclairait d'une faible lueur. Ils contournèrent le bâtiment et se retrouvèrent nez à nez avec Sabi. Les larmes sur son visage avaient fait couler son maquillage de déesse égyptienne.
Nous avons voulu nous éloigner avec Akan dans le noir pour...
J'ai compris, ma chérie, abrégea Alix, essoufflée, en prenant son amie dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe?
Il est là.
Alertés par les cris, d'autres ados accouraient déjà. Agnel et Solario s'avancèrent eux aussi. La grande silhouette d'Akan était agenouillée dans un coin sombre, entre les murs de l'orangerie et une haie de laurier. Pou était recroquevillé sous les feuilles. Aussi immobile et fragile qu'un oiseau tombé du nid. Akan s'écarta. Pou fixait les nouveaux arrivants de ses grands yeux inquiets, mais sans les accueillir comme il en avait l'habitude, d'une syllabe et d'un grand sourire.
L'enfant prématuré se contentait de répéter en boucle les mêmes mots.
Or-oi, or-oi, or-oi.
Tous baissèrent alors les yeux et virent le chien que Pouh serrait entre ses bras. Puggy, langue pendante, bouche ouverte et yeux exorbités. Mort. Étranglé.
Or-oi, or-oi, or-oi.
Les longs doigts de Pouh caressaient toujours le cou poilu du chien. Fort, trop fort. Tous refusaient encore d'admettre l'évidence. Pouh, leur protégé, le si gentil, l'innocent, venait d'étrangler de ses propres mains un être vivant.